Radio Barque 38e, nous entamons cette troisième partie avec notre invité, dont je rappelle que c'est aujourd'hui Gilles Belzon. Donc, je le disais en tout début d'émission, Gilles, vous êtes aujourd'hui restaurateur dans les Halles, chez Bebel. Vous avez été longtemps rugbyman professionnel, Narbonne, Le Racing, Béziers, peut-être d'autres endroits.
Montauban
aussi. Mais surtout, il vous est venu une idée, alors je ne sais pas comment la qualifier, je vous laisse le qualificatif, il y a quelques mois. Vous êtes parti faire alors, de la télé-réalité. Vous êtes parti sur une île déserte pour l'émission de M6 qui s'appelle The Island, l'île. C'est une île déserte et il fallait survivre avec rien. Alors, première question, Gilles, vous qui êtes au quotidien, vous travaillez là-bas dans les Halles, comment vous est venu, quelles sont les circonstances qui vous ont amené à envisager cette émission ?
Mais déjà, pour ma part, je n'ai pas fait de demande particulière parce que, pour être sincère avec vous, je ne rade pas ce style d'émission, les Koh-Lanta, tout ça, je respecte toutes les émissions, mais je ne rade pas particulièrement ce style-là. J'ai eu la chance en 2009 de faire une émission dans les Halles avec Cyril Lignac, qui est venu cuisinier. On avait fait une émission tous les deux qui s'appelait Un chef en région, et quand il était passé en Languedoc-Roussillon, donc j'ai eu la chance de rencontrer donc Cyril, toute son équipe de production, et puis voilà, mais que j'ai perdu de vue depuis 2009. Et quand cette émission s'est montée, là maintenant, sur les saisons 1 de toutes les émissions, c'est hyper secret parce qu'ils ont peur de se faire voler les droits, enfin ils ont peur d'être copiés, ils ont peur d'avoir des... Donc ça veut dire que les productions se protègent énormément. Par rapport à ça, sur les saisons 1, étant donné qu'il n'y a pas de casting, c'est eux en interne qui doivent se procurer, que trouver. Là, on était 13 personnes. Donc, ils sont allés dans leur vieux fichier. Ils ont regardé deux ou trois participants qui avaient fait des candidatures pour faire Koh-Lanta. Deux ou trois candidatures pour avoir fait plusieurs émissions.
Et vous étiez dans ce fichier ?
Moi, j'étais dans ce fichier-là. Et un jour, Cyril qui croise donc le responsable de la production et qui dit « Moi, je connais un mec dans le Sud avec qui vraiment sympathisé, qui est vraiment du sucre, un ancien rugbyman, ça pourrait l'intéresser.
Oui, c'est lui qui vous a, entre guillemets, pistonné. Oui,
pistonné, ouais, voilà.
Enfin, aiguillé, en tout cas.
Aiguillé, là. Et c'est vrai que, bon, j'ai reçu un coup de téléphone donc, de Paris, mais en fait, ils ne m'ont rien dit au départ. C'est pour ça que je ne sais pas à la base. Je leur demande uniquement les périodes, parce que comme je travaille, comme je fais un petit peu de la radio pour les matchs de rugby.
Oui, vous êtes également, en tant qu'ancien rugbyman, commentateur sur Grand Sud FM, il faut le rappeler également. Bien entendu, on referme la parenthèse là-dessus, mais ça veut dire qu'on vous entendra encore à ce même micro sur ces mêmes ondes. Alors donc, voilà.
Ça s'est fait comme ça. Donc le seul truc que je sais quand je pars, c'est les dates. Et je sais qu'on va me mettre sur une île avec 13 hommes, et sans eau et sans nourriture.
Alors au début, tout cela est secret, vous l'avez expliqué, on comprend pourquoi, on ne veut pas... Bon, il y a des contrats, vous étiez sous contrat pour ne pas divulguer un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des choses que vous ne pouvez pas dire? Vous pouvez tout dire.
Non, maintenant je peux tout dire. J'ai eu la chance de le vivre, cette aventure, de voir les coulisses, et c'est vraiment une très très belle aventure.
Alors quand vous commencez à prendre un peu conscience de ce que c'est, est-ce que vous hésitez ou alors vous dites non, banco, j'y vais, je tente ma chance?
Pour tout vous dire, parce qu'après c'est allé très vite, la production m'a téléphoné, c'était vers le 20 décembre, c'était les fêtes de fin d'année, donc j'avais la tête vraiment entre tous les commerces et tout ça là. J'ai quand même eu en début d'année le décès donc de mon proche collaborateur Michel Mestre à la boucherie qui était en face de chez moi. Au moment où j'avais déjà dit oui à la production, il m'a fallu vite. Enfin, j'avais pas mal de dossiers. Et pour tout vous dire, quand je me suis retrouvé dans le train, quand on m'a laissé à Narbonne, j'ai vraiment pris conscience que je partais quand j'étais à Coursan. Donc j'ai pas eu le temps mentalement de me préparer et de tout ça.
Et après, parce que en tant que chef d'entreprise, vous aviez des choses à gérer à ce moment-là.
Des choses à gérer et tout ça. Bon, mais après. Je vais pas me cacher derrière toutes mes obligations professionnelles. Je vous cache pas que la première chose qui m'a animé pour avoir dit oui à cette aventure, c'est que je suis formaté entre guillemets depuis l'âge de 10 ans où ma mère m'a amené à Cassayer pour mon premier entraînement de rugby. J'ai très vite compris que le rugby était déjà un sport de combat, un sport de concurrence, un sport de compétition, et donc j'ai été fabriqué comme ça. Et j'ai pas honte de le dire aujourd'hui, pendant mes 20 ans de rugby, comptant les jeunes ou tout ça. J'avais une sensation tous les dimanches de peur, de pression, mais une bonne.
Mais vous aimez ça, quoi.
Voilà. Et ma grande tristesse quand j'arrêtais à 34 ans de jouer au rugby, ça a été ce qui m'a manqué le plus, c'était ça, c'était la préparation et de se mettre dans une situation entre guillemets de danger.
Oui. Michel Santo.
Mais en même temps, Gilles, c'est une formidable opération de communication pour le chef d'entreprise que vous êtes. Quoi. Alors non seulement entre parenthèses pour le chef d'entreprise, mais pour la ville de Narbonne, car bon, tout le monde le sait. Quand on vient de, d'ailleurs que de ce département dans cette ville, on va au Hall et on va au Hall voir Bébel, quoi, y manger. Donc c'est vrai que c'est un de nos ambassadeurs les plus importants.
Pour mettre une petite parenthèse à ce que tu dis, Michel, c'est vrai, mais aujourd'hui, ce qui fait de moi un homme heureux entre mon commerce, ma famille et tout ça, c'est que il m'arrive des choses à la limite sans les chercher.
Bien sûr.
Ça m'arrive comme ça. Après, étant donné que je suis très très curieux, voyez, bon, mais la radio, ça m'est arrivé comme ça. C'est un exercice que j'aime vraiment. Là, cette aventure, c'est... mais je fais pas les choses pour avoir, comment dire, de retomber. J'aime les nouvelles.
Vous ne les faites pas par calcul, vous voulez
dire ? En toute sincérité. Non, parce que je l'aurais fait par calcul, je ne serais pas parti au bout d'une semaine, par exemple. Voilà,
vous seriez allé au bout de...
Ça aurait été une aventure purement commerciale, médiatique et tout ça. Au bout d'un moment, j'aurais dit, bon, mais Gilles, allez, serre les dents, il faut continuer. Alors que ce n'est pas mon mode de fonctionnement, outre l'aspect aventure qui a été pour moi vraiment exceptionnel.
Alors, vous disiez donc, vous partez à Courson, vous prenez conscience tout d'un coup, alors vous allez à Paris. Ensuite, essayez de nous raconter un petit peu comment ça se passe.
Dans l'ordre déjà, dès que j'arrive à Paris, parce qu'après, je tiens à dire notamment, parce que c'est vrai qu'il y a eu des polémiques avec l'accident qu'il y a eu sur l'émission qui devait, entre guillemets, concurrencer Zazlan. Les productions sont hyper, hyper, hyper sécurisées et hyper pointues. C'est-à-dire qu'ils nous ont jamais lâché dans la nature. Tout était sécurisé, on avait des balises en permanence. Donc mon arrivée dans Paris, déjà, j'avais deux dames qui m'attendaient, qui se sont occupés de moi, qui m'ont ramené dans un hôtel. On est dans les 13 participants, on était dans l'hôtel, mais pendant la semaine où on était en formation sur Paris, on avait ordre de ne pas communiquer entre nous. Ça veut dire que, voilà, donc on était enfermés dans nos chambres. Tous les matins, à 7h du matin, on nous montait le déjeuner, et quand on sortait devant l'hôtel, on avait 13 taxis, et qui nous ont ramenés pendant 2 jours. Dans les locaux de M6, là où ils tournent The Voice.
Ah, mais vous étiez formés quand même ensemble, collectivement.
On a été formés ensemble, mais on était.
Séparément.
Ouais, enfin, on était ensemble dans les mêmes locaux, mais on se voyait, mais on était interdit de se parler. Ça veut dire qu'il y avait, entre toi, Michel, nous est à côté, ouais. Mais là, il y avait quelqu'un de la production, enfin, tout le monde était dispersé.
Bien sûr.
Ils nous ont appris, donc, pendant 2 jours, à faire marcher toutes les caméras. Parce qu'après, c'est assez quand même.
Oui, c'est vous qui deviez vous filmer.
C'est nous qui nous filmions, voilà. Donc, ça veut dire qu'il fallait être capable de changer des piles, changer des batteries, changer de. Donc, on est parti sur 2 jours devant apprendre à zoomer, savoir marcher avec des caméras pour pas que. Parce qu'il y a tellement de moyens qui sont détachés sur cette émission. Même si dans l'équipe, au même titre que nous, qui ont souffert, qui ont vécu la même chose que nous, il y avait 4 ou 5 caméramans là, enfin professionnels. Mais il fallait à tout prix que les images viennent de qualité. Et après, une fois qu'on a eu ces 2 jours de formation, on est parti 2 jours dans le 5e arrondissement avec la protection civile, où là, ils nous ont appris on a passé un diplôme pour prendre de suite les premiers conseils.
Les éléments de survie, un peu,
voilà,
peut-être.
Si quelqu'un fait un malaise, savoir comment on agit sur un malaise, savoir comment on agit si quelqu'un tombe, parce que on peut pas mettre quelqu'un en position de sécurité s'il est mal au cervical. Mais... Il y a eu 2 jours de formation.
Oui, il y a eu quand même une sélection sérieuse, vous voulez dire.
Oui, voilà.
À ce niveau-là.
Oui, non, après, ça a été très, très sérieux. Moi, quand je suis monté déjà à Paris pour me prendre, ils m'ont demandé prise de sang pour savoir si je prenais pas de drogue, mon casier judiciaire, parce qu'après, ils veulent pas embarquer des gens à problème dans ce style d'émission.
Et alors après, donc, vous prenez l'avion, vous jusqu'où?
Après, je prends l'avion, donc ça veut dire que, bon, déjà, une fois qu'on a fait cette formation-là, à 5h du matin, ils nous réveillent, on était à Orly. Il y a un taxi, alors pareil, 13 taxis devant le truc, qui nous amène, moi en plus, Belzon premier, donc on m'appelait le numéro 1, puisque bon, il fallait pas qu'on
number
nous
appelle. Number 1.
Non, oui, mais voilà, par ordre alphabétique, puisqu'il voulait pas qu'on sache nos prénoms, donc on nous avait numéroté, moi j'étais le numéro 1. Et là, tu arrives à Orly, et là, j'ai vu toute la puissance d'une production. Où quand je suis arrivé, il y avait des caméras partout. Là, tu vas dans Orly, enfin, bon, tu marches avec ta valise et t'es un petit peu propulsé là. Et là, quand tu arrives au guichet, c'est là qu'on apprend qu'on part au Panama.
Oui, c'était au Panama. Donc, vous avez atterri à Panama.
Donc là, on a atterri à Panama City. On passe une nuit à Panama City. Toujours pareil, même protocole, en chambre tout seul. Et après, on part 2 jours en formation sur une île au large du Pacifique. Et une île habitée. Et là, on fait la connaissance donc, de Mike Horn, un très, très grand aventurier au niveau, qui est reconnu au niveau mondial.
Un ancien militaire, je crois.
Un ancien militaire, oui, avec qui j'ai passé des moments extraordinaires et qui nous racontait ses épopées. Parce qu'après, lui, c'était vraiment quelqu'un de très, très pointu. Et donc, on est parti 2 jours en Formentera. Et c'est là, après, que j'ai repris une petite dose. J'ai pris ma première dose à Coursan en disant, punaise, je pars dans une aventure. Et là, j'ai repris une seconde dose. Coup,
là, il vous tombe quelque chose sur la tête.
Voilà, quand, voilà. Quand il arrive et qu'il te met un serpent dans les mains, quand il te met des migales, quand il te dit qu'il y a des crocodiles qui sont derrière, que tu vas avoir des rémantas qui sont devant. Et là, ça veut dire que tu prends un second second coup sur la tête.
Oui, voilà. Oui. Et alors, donc, après, le reste, on l'a un peu suivi à la télévision. Après, c'est public. Et à quel moment vous dites, bon, maintenant, ça a assez duré, j'ai envie de rentrer?
Ça a assez duré parce que le truc, c'est que, comme je le disais en préambule, enfin, en début d'interview, c'est qu'on m'avait dit, Gilles, tu verras, parce que comme on ne sait pas où on va. Il m'avait dit, c'est un mélange de Terre inconnue et un mélange de Koh-Lanta. Donc le thème survie, ils ne m'ont pas menti, je le savais. Le terme boisson, le terme nourriture, tout ça, je le savais. Mais étant donné que je ne savais rien dans mes rêves...
Mais est-il vrai que, si vous me permettez l'expression, vous n'aviez rien à bouffer ?
Non, rien du tout. Mais moi, c'est le thème de l'émission. Vous voyez, si on peut faire des comparatifs avec Koh-Lanta, c'est une émission où ils réunissent, je crois, 15 ou 20 personnes. Et à la fin, il faut des stratégies, il faut éliminer. Et puis à la fin, il y a quelqu'un qui gagne, je crois, 700 000 euros. Donc, mais c'est du sport. Mais après, une fois qu'ils sont sortis de là, en off, on leur donne un petit peu à manger, ils ont du feu, ils ont un gang, mais parce que le thème c'est je fais du sport, t'es bon, tu restes pas bon, tu sors. Nous, c'est pas, ça veut dire que c'est pour ça qu'il y avait bonne ambiance, ça veut dire
c'est
que
la survie quoi.
C'est de la survie, il n'y a pas d'élimination, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'argent à gagner à la fin, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de stratégie. Donc vous comprenez bien que si quand on baisse les caméras, il y a quelqu'un de la production qui nous amène une gourde ou un jambon beurre, c'est comment dire, voilà. Le thème de l'émission c'est de voir 13 personnes maigrir, barbues, se plaindre de ventre parce que tu as tout ton intestin qui marche plus, puisque, ou plus bien, puisque tu manges pas. Donc, toute l'essence de cette émission, elle est là.
Et alors, à quel moment donc, vous dites, allez, maintenant, ça suffit, je retourne à Narbonne?
Moi, je prends la décision de sortir de cette aventure, parce que puisque je ne savais pas trop. Je suis fan que d'une émission. Il y a une émission que je trouve qui est exceptionnelle au niveau média. Ça s'appelle Terre Inconnue. Mmh. Et cette émission, quand je la vois, elle est belle parce que on fait rentrer des, bon là, c'est des personnes célèbres, dans des tribus.
Oui, on découvre d'autres populations.
D'autres populations. Et moi, dans mes rêves, dans mes suppositions, puisqu'on part que dans du rêve, là, ceux qui vont faire la saison 2 l'année prochaine, ils savent où ils vont. Et bien, moi, j'étais parti dans l'idée qu'on allait nous laisser dans la jungle, dans l'Amazonie, tout ça. Donc, galérer, pas boire de l'eau, pas boire à manger, j'étais prêt à le subir. Parce que j'avais
mais rencontrer des Indiens.
Mais voilà, j'étais persuadé qu'on allait avoir une...
contact de culture, une société.
Rencontrer une culture, passer une paire de jours avec, je vous dis, enfin, vivre avec des locaux. Mmh. Là, de dormir sur une paillasse, manger un rat, enfin voilà. Non, mais j'aurais été prêt à tout faire. Oui. Et ma grande déception, entre guillemets, puisque c'est vrai que j'ai été hyperactif, donc, sur la première semaine. L'île, quand on nous a posé, on ne sait pas si elle est grande, on ne sait pas si elle est petite, on ne sait rien. On nous dit qu'il y a suffisamment de ressources naturelles dans l'île. Donc toute la semaine, tous les matins, je partais, je me faisais 7-8 heures de marche. Déjà, je me régalais, même si je râlais, mais bon, j'ai un tempérament râleur, donc même si je râlais, mais je le faisais parce que, ça, un, je ne pensais pas à ma famille, je ne pensais à rien. Et deux, ça veut dire que j'étais dans un esprit de découverte comme un enfant quand on met dans la campagne et qu'on avance. Voilà. Et au terme de cette semaine, quand je me suis rendu compte que l'île, elle était vraiment petite, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de ruisseau, qu'il n'y avait pas de lac, qu'il n'y avait pas de rivière, qu'il n'y avait pas de fruits, et là, je me suis dit, Gilles, maintenant, t'es sur un caillou, et il te reste 22 jours à rester assis sur un bout de bois, et là,
ça vous semblait trop long.
Trop long, et puis, ce n'était pas, comment dire, approprié pour ma personne qui avait bougé.
Voilà, ça n'était plus ce que vous aviez espéré. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Gilles Belzon. Merci, Gilles Belzon, pour ce témoignage. On en a appris quand même un petit peu plus que ce qu'on avait vu à la télévision.
Par contre, excusez-moi de vous couper, Jean-Claude. J'ai retenu deux choses, si je peux dire ça, dans cette aventure. C'est qu'aujourd'hui, parce que vous parlez de politique, et moi, ce qui m'intéresse également, c'est que la politique locale, elle est très importante. Nationale, elle est encore plus, mais mondiale. Mondiale, elle est encore plus, parce qu'on est quand même sur un socle qui s'appelle la planète. Et tous les participants, on a tous été très choqués par la pollution qu'il y a dans ces îles. Et c'est un vrai débat de société, parce que je pense qu'aujourd'hui, écologiste, il faut qu'on le soit tous. C'est le seul débat politique que je pourrais me permettre de faire. Et donc ce qui m'a choqué, c'est la pollution. Il y a des détritus. T'as même honte quand tu te promènes dans la jungle, quand tu croises un serpent. Je me suis même excusé auprès d'un serpent en disant excuse-moi de te polluer ton île. Donc c'est un débat, je sais pas, c'est un débat. Si les chefs de la planète pouvaient faire quelque chose pour faire un gros nettoyage de ces îles, déserte, ce serait très très bien pour l'humanité.
Eh bien, merci pour ce message alors supplémentaire et relativement inattendu.
Ouais.
Je rappelle aussi qu'éventuellement on pourra vous retrouver sur nos ondes, cette fois-ci en commentateur de rugby à la saison prochaine.
Oui.
La prochaine émission de Radio Barque, puisque nous en ferons encore deux, nous clôturerons le 3 juillet. La prochaine, nous recevrons le metteur en scène du festival de Foncalvi, ainsi, qui s'appelle Yannick Séguier, historien et metteur en scène, ainsi que Daniel Hernandez, qui lui est un auteur de polar, dont les intrigues ont servi justement à fabriquer le prochain spectacle de Foncalvi. Merci à vous deux et à la semaine prochaine.
Merci à vous.
Merci, à bientôt.